Merci à Florent. Donc, le passage ce matin se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, c'est dans l'Ancien Testament, c'est à la page 450. Nous allons lire les six premiers versets de ce chapitre. Ésaïe 9 à la page 450. Avant de donner le passage, je vais prier. Merci notre bon Père Céleste pour cette parole. Nous avons besoin de tes paroles. Ces paroles qui nous font vivre, revivre. Et Père, nous on te demander de nous parler ce matin par ton esprit. Applique ces paroles à nos cœurs pour que nous puissions te connaître davantage, te louer davantage, te suivre plus fidèlement. Aide-moi à parler de manière fidèle, à me soumettre aussi à cette parole en l'expliquant. Et à nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse. Tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson. Comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Bon, cette semaine, dans la presse Le People, il y a eu l'annonce de la naissance d'un prince et d'une princesse. La princesse Charlène de Monaco a donné naissance à des jumeaux. Alors, c'est apparemment le fils qui pourtant naît en deuxième, qui est destiné à être un jour le prince de Monaco, à régner à la place de son père, Albert. Alors, c'était un fait divers qui, franchement, pour nous, n'a pas beaucoup de signification. Oui, ça vend des journaux. Peut-être ça nous fait rêver, même en tant que républicain convaincu. On rêve de ce monde de princes et de princesses. Bien sûr, on n'y croit pas, pas du tout, bien sûr. C'est juste pour le théâtre. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est la même chose pour Jésus, finalement? Nous chantons à Noël, nous chantons qu'il y naît le divin enfant. Comme tous les ans, il y a la crèche, on a mis hier une scène de crèche sur la table du café. À la place du marché à la Garenne, il y a une crèche. Peut-être pour nous, c'est quelque chose de sympa. Le bébé est plutôt mignon, entouré de sa famille, entouré de bergers, de rois. Mais est-ce juste une histoire, quelque chose qui nous fait rêver, une histoire pour les enfants? On a cet après-midi la fête de Noël des enfants. Il va y avoir des sketchs. Si je ne me trompe pas, c'est Maud qui va jouer le rôle de Marie et puis Émeric qui va jouer le rôle de Joseph. Est-ce juste une histoire pour les enfants? Alors ce passage, ce matin, nous montre une perspective un peu différente, une image un peu différente de cette scène. Ce bébé dans la mangeoire, bien sûr, il est mignon, c'est vrai. Mais fort heureusement, ça ne se limite pas à ça. Il est bien plus que ça, bien plus que ça. Ce passage dans Ésaïe nous montre son autorité. Ce passage nous montre sa puissance. Ésaïe nous donne une vision qui devrait nous faire trembler. Une vision qui devrait nous impacter au plus profond de nos cœurs. Une vision qui devrait à la fois susciter la crainte, mais aussi nous faire tressaillir de joie. Alors d'où vient ce passage ? Au juste, qui c'est cette Ésaïe ? Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 2700 ans. Israël, le peuple, le pays d'Israël est déjà scindé en deux. Il y a un royaume du nord et un royaume du sud. Et Ésaïe, lui, se trouve dans le royaume du sud, à Jérusalem. Au début de son ministère de prophète, c'était un temps glorieux, un temps prospère. Mais Ésaïe a annoncé le jugement à venir, une catastrophe, une occupation, l'oppression des ennemis. Et on va voir aussi dans ce passage, il annonce aussi un salut. Donc on a ces thèmes dans ce passage, le salut et le jugement. Et c'est un passage qui nous prépare pour Noël, c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est un passage qui préparait le peuple d'Israël au message de Noël, au message de Jésus, la naissance de Jésus. On va voir tout à l'heure que Jésus lui-même a pris ses paroles, cette prophétie, sur ses lèvres pour parler de lui-même et de son ministère. La première chose qu'on va voir ce matin, c'est que ce passage nous parle d'une libération. Une libération tellement bienfaisante, une libération spectaculaire. Vous avez sur les feuilles de champ à l'intérieur un peu le plan de ce qu'on va voir dans ce message, les points différents. Une libération tellement bienfaisante, c'est le premier point. Alors, dans l'histoire française, lorsqu'on parle de libération, on pense bien sûr au débarquement en 1944, à la libération de Paris en août 1944. On peut penser à toutes ces photos de foule en liesse, après 5 ans d'occupation, enfin la liberté. La capitale a été libérée. C'était la fin de l'oppression. Mais certains ici présents ce matin se souviennent de ce jour. Vous pouvez en parler avec eux, de cette joie de la libération. Alors, dans notre passage de ce matin, cette libération est décrite de plusieurs manières. Et la première image qu'on voit, c'est l'image de la lumière. Verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Et c'est une image très parlante. La lumière, elle fait du bien. Surtout lorsqu'on est là en fin fond de l'hiver, donc on veut cette lumière libératrice, vivifiante. Je sais que lorsqu'on descend dans le sud de la France et on voit la lumière à partir de Valence, ça fait du bien, on revit en quelque sorte. Alors dans la Bible, cette lumière est associée à la présence de Dieu. Dieu est lumière. Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Ésaïe annonce une libération du pays de l'ombre de la mort, de ce pays ténébreux, déprimant, ce pays de désespoir. Et Ésaïe annonce une libération, une lumière vivifiante, la lumière de Dieu. Et on voit que c'est une libération de pure grâce. Si on est dans ce pays de la mort, on ne peut pas nous libérer nous-mêmes, il nous faut cette lumière qui vient d'ailleurs, cette lumière de Dieu. Ensuite, après la lumière, Ésaïe parle de la joie. Verset 2. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi. Comment le fait l'or de la moisson, comment jubile au partage du butin. On voit qu'Ésaïe annonce une bénédiction. Fini les jours où la population est décimée, où la population doit partir loin en exil. Non, c'est la joie. La joie comme lors de la moisson, comme lors de cette abondance. C'est la fête. C'est la musique. Alors cette joie n'est pas dans la moisson ou dans l'abondance de Dieu, mais la joie est en Dieu lui-même. Cette joie est dans l'Éternel, dans le Seigneur, devant lui. On se réjouit de lui, on se délecte de lui. C'est fini la déprime nationale. Il y a cette libération de la déprime. Il y a la joie en Dieu. Alors comment? Pourquoi? Le verset 3 nous parle d'une libération que Dieu va effectuer. En effet, verset 3, le fardeau qui pesait sur elle, sur la nation. Le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait. Tu les brises, donc Dieu les brise, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Donc cette lumière vivifiante, cette joie devant Dieu, en Dieu lui-même, ces choses viennent de cette libération de l'oppression. Et c'est Dieu qui va le faire. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de cette victoire sur Madian, si dans votre jeunesse vous avez été à l'école du dimanche, je pense que vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire de Gédéon, où Dieu, de manière délibérée, a demandé à Gédéon de réduire le nombre de soldats dans son armée, de manière délibérée, pour qu'il y ait simplement un minimum de soldats. Et ça pour montrer au peuple que la victoire appartenait à Dieu seul. Et par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu annonce au peuple d'Israël une libération de l'oppression. Et c'est Dieu seul, qui allait le faire. La victoire allait être la sienne seulement. Alors comment est-ce que Dieu va effectuer, remporter cette victoire? Le verset 4 nous montre qu'il va le faire, non pas en menant la guerre, mais en instaurant la paix. C'est une nuance de taille. Parce que Dieu va mettre fin au cycle de guerre. À la fin de la Première Guerre mondiale, on a dit que ça allait être la dernière guerre, tellement cette guerre fut terrible. Et bien sûr, ce n'est pas la dernière guerre. Il y a eu un tas de guerres après, même cette année, on a vu cette guerre en Ukraine. Mais ici, on voit que Dieu promet de mettre fin à ce cycle de guerre en instaurant la paix. Et du coup, le peuple d'Israël n'aura plus besoin de stocker des armes, de faire des traités stratégiques. Le verset 4 nous dit qu'il peut se débarrasser une fois pour toutes de ses bottes de combat. C'est fini la guerre. C'est une image de libération. Une image de salut extraordinaire, une lumière vivifiante qui donne une joie en Dieu grâce à sa victoire qui nous donne la paix, une paix permanente, une paix qui met fin à la guerre. Et c'est une image de grâce, d'un cadeau tout à fait immérité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans ce livre d'Ésaïe, Ésaïe nous montre le problème de ce peuple. Et ce peuple était si peu méritoire. Ésaïe nous parle de la rébellion de ce peuple. Israël, pourtant, comme un enfant de Dieu, s'était rebellé contre son père. Il a poursuivi d'autres dieux à la place du vrai Dieu. Il a montré tout son mépris pour Dieu. Il a montré tout son mépris pour ses voies, pour sa loi. En quelque sorte, il n'a pas voulu de son règne, du règne bienfaisant de son Dieu. Et du coup, ce peuple était livré à la colère de Dieu, au jugement de Dieu, à l'oppression de ses ennemis. Et Israël méritait ce jugement. Mais Ésaïe annonce une libération, un salut, une libération de grâce, un cadeau immérité. Une libération qui allait être effectuée par Dieu seul, pour un peuple incapable de se sauver, pour un peuple incapable de changer. Alors on peut se poser la question, pourquoi, en quoi est-ce que ça nous concerne, nous, au 28e siècle, 27 siècles plus tard? En fait, très souvent, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, nous sert de miroir. En regardant à Israël, c'est comme si on est devant un miroir et on voit notre propre image. Sans Dieu, nous sommes nous aussi dans ce pays de l'ombre de la mort. Même en Occident, même avec notre liberté, même avec notre démocratie, même avec nos richesses. On voit que la dépression sévit et touche des millions de personnes. On lit dans les journaux que le taux de suicide en France est élevé. Sans Dieu, finalement, on n'est pas libre. En fait, on est sans espoir, sans signification, même sans valeur. Et on voit qu'entre nous, ça ne va pas non plus. La haine, la méfiance, ces choses font rage dans nos villes. La peur de l'autre s'est installée. On a peur de parler à l'autre. Le racisme nous touche tous. Certes, l'amour fait rêver, mais le taux des divorces témoigne de notre incapacité de vivre ensemble. Trop souvent, on a du mal à parler avec nos parents, ou nos enfants ont du mal à parler avec nous. Le culte de soi, c'est un peu ce qu'on voit dans cette recherche effrénée de l'épanouissement de soi, dans notre travail, dans nos loisirs. Ça conduit plutôt à la déception. Ça met en valeur, ça montre un peu le vide qui est au centre de nos vies. Ce culte de soi est voué à l'échec. La mort, le coupe court, le vide tout son sens. Et je pense qu'on sait un peu ce que c'est de vivre dans ce pays de l'ombre de la mort. Peut-être que vous, en ce moment, vous êtes particulièrement touché par ce spectre de ce pays de l'ombre de la mort, ce désespoir, cette déprime. On a soif de cette liberté. On a soif de cette joie. On a soif de cette paix. Et ces choses nous semblent inatteignables. Comment est-ce qu'on peut les avoir? Oui, parfois on les a de manière éphémère, parce que dans cette création, il y a quand même de bonnes choses. On va peut-être goûter à ces bonnes choses ce Noël. Mais cette ombre de la vallée de la mort plane sur nous. Elle est en quelque sorte une servitude qui fait foisonner le désespoir, la dépression, le doute, la douleur. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Pourquoi est-ce qu'il y a cette ombre de la vallée de la mort? Dans le fond, l'idolâtrie du peuple d'Israël, le fait d'adorer ces faux dieux, cette idolâtrie, c'est aussi la nôtre. Cette servitude vient de notre refus de Dieu, de notre refus de son règne dans nos vies. Et on a besoin d'une libération. Isaïe annonce une lumière vivifiante qui va détruire ces ténèbres. Il annonce une joie, une vraie joie, une joie qui est en Dieu lui-même. Il annonce une vraie paix, une paix permanente, une paix profonde, une paix en Dieu. Alors, comment au juste? Comment est-ce que Dieu va le faire? Nous sommes là au deuxième point, sur le polycopier, sur la feuille des champs. Il va le faire par un libérateur qui est à la hauteur. Si on est opprimé, si on est écrasé, tenu en captivité, occupé, il nous faut un libérateur puissant. En 1944, le général Leclerc est entré dans Paris avec la 2e division blindée. Bien sûr, il avait l'appui de ses alliés, c'est un point mineur que de Gaulle a oublié, mais en tout cas, il est venu avec une force accablante. Il nous faut une force accablante pour remporter la libération. Et au verset 5, la stratégie de Dieu peut nous étonner. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La grande stratégie de Dieu, cette force accablante, c'est un bébé. Un bébé bien faible, bien vulnérable. Mais en même temps, dans ce passage, on voit que ce bébé n'est pas juste un simple bébé. Ces versets nous parlent d'un bébé qui est Dieu lui-même. Dieu puissant, Père éternel. Mais ce bébé est aussi un homme, un roi, un homme royal. C'est un roi qui nous est né. Alors c'est vrai, les rois humains meurent. Les rois humains manquent de sagesse. Les rois humains sont pécheurs, même les meilleurs d'entre eux. Dans un sens, ce passage fait contraster les rois de l'histoire d'Israël à un roi humain qui vient de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et la description de ce roi est vraiment glorieuse. Les titres qu'Ésaïe lui donne dépassent en gloire n'importe quel roi de l'histoire. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Merveilleux conseiller, c'est un roi qui va être plein de sagesse, vraiment le roi le plus sage qui soit. Il sera Dieu puissant, il aura toute la puissance de notre Dieu créateur. Père éternel, ce sera un roi qui peut vraiment s'occuper de son peuple, qui va aimer son peuple comme un père aime ses enfants. Il sera rempli de l'amour d'un père, Prince de la paix. Il incarnera la paix. Il sera lui-même la réconciliation, l'amitié. Il sera l'apogée de ces choses, l'accomplissement de ces choses. Et on voit au verset 6 qu'il sera un roi dans la lignée de David. Dieu a promis un tel roi à David. Et ce roi régnera dans la justice, un roi pleinement juste. Cette lumière, cette joie, cette victoire, cette paix, ces choses vont venir par ce roi divin. Et ce roi divin est vraiment le plus grand besoin de ce peuple. Il a besoin de ce roi. Il a besoin de ce roi libérateur. Il est dans le pays de l'ombre de la mort. Au fond, le problème de ce peuple d'Israël était leur rébellion. Il a refusé le règne de Dieu sur sa vie. En refusant son règne, en adorant d'autres dieux, en suivant sa propre voie, il n'a pas trouvé sa joie. Il n'a pas trouvé de l'indépendance. Il a trouvé de la servitude. Si le refus du règne de Dieu est à la racine de ses problèmes, en fait, son salut viendra par le règne de Dieu, par le royaume de Dieu, par le roi divin. Il a besoin de ce royaume. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. En rejetant Dieu, en vivant sans lui, en suivant notre propre voie, c'est vrai, on pensait à chercher notre bonheur et on a trouvé la servitude, la dépression. Vivant ce pays de l'ombre de la mort. Alors, cette illustration est plutôt banale. Dans les bus, il y a quelques années, on voyait un peu un slogan qui incitait les gens à la civilité. Ce slogan nous invitait à suivre les règles de bonne conduite en disant que sans règles, tout se dérègle. Et en fait, lorsqu'on refuse le royaume de Dieu, lorsqu'on refuse son règne, son mot à dire dans nos vies, c'est les ténèbres qui le contrôlent. C'est nos ennemis, ce sont nos ennemis qui nous asservissent. C'est l'ennemi du péché, c'est l'ennemi du diable. Ça se voit dans nos addictions, ça se voit dans nos colères. Ça détruit notre paix, la paix avec nous-mêmes, avec nos prochains, avec notre prochain, avec Dieu lui-même. On a un lointain souvenir de cette paix. On a soif de ça. Mais on n'arrive pas à combler cette soif. Si le refus du règne de Dieu est à la racine de nos problèmes, notre salut viendra par le règne de Dieu lui-même, par le royaume de Dieu, par le roi divin. Nous avons besoin de son règne dans nos vies. En fait, nous avons besoin de son autorité bienfaisante. Et le message de Noël est finalement l'annonce de la restauration bienfaisante, libératrice de l'autorité de Dieu, le gouvernement de Dieu sur les hommes. Nous avons besoin de son autorité, nous avons besoin de son règne. Et cette autorité, cette souveraineté libératrice, paisible, vient par ce bébé, vient par le roi que Dieu nous a donné. Vous l'avez deviné, bien sûr, ce roi est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes à ce troisième point maintenant, cette libération qui met le monde sens dessus dessous. Alors nous, on a l'habitude de cerner en l'enfant de la crèche, cet enfant qui est dans ce passage, cet enfant annoncé par Ésaïe. Mais pour ceux qui étaient là au premier siècle, ce n'était pas si simple. Parce que ce Jésus n'était pas né dans un palais. Le palais de Jérusalem n'a pas annoncé sur Facebook la naissance d'un bébé royal. Jésus est né dans une humble étable. Il a grandi dans une famille modeste, dans l'arrière-pays de Galilée. Mais au début de son ministère, c'est Jésus lui-même qui a fait l'annonce. Et on le voit dans l'évangile de Matthieu. Donc je vous invite à trouver l'évangile de Matthieu dans vos Bibles blanches. C'est le début du ministère de Jésus. Matthieu chapitre 4, et c'est à la page 619, allez, à partir du verset 12, Jésus vient de se faire baptiser, c'est le début de son ministère public, il explique son ministère à venir. Verset 12, lorsqu'il apprit que Jean, donc Jean-Baptiste, avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Autrement dit, le roi est là. Le règne, le royaume de Dieu est présent en Jésus lui-même. Le roi est là. Et dans les évangiles, on voit ce roi à l'œuvre. Il est venu pour en découdre avec le mal, avec ce pays de l'ombre de la mort. Jésus anéantit ce qui nous opprime, le mal, le malin, la maladie. Et les gens étaient restés bouche bée devant sa puissance. Ils n'avaient jamais rien vu de la sorte. Il était un roi puissant, d'une puissance extraordinaire. Mais sa victoire ultime était quand même particulière, étrange même, parce que c'était une victoire arrachée, accomplie, remportée, une libération accomplie dans la faiblesse. Au fur et à mesure que l'évangile de Matthieu avance, nous découvrons un roi qui est un roi serviteur. Lisons chapitre 20, par exemple, c'est Jésus qui le dit. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous avez compris, c'est à la croix que Jésus remporte la victoire. C'est là que la libération de son peuple est effectuée. Et Isaïe l'avait prédit aussi, si on devait lire quelques chapitres plus tard, donc au chapitre 53, on voit qu'il y a le récit qui concerne un serviteur. Et le serviteur et le roi sont la même personne. Il s'agit de Jésus. Voici quelques versets d'Ésaïe 53. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos iniquités, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivit sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est dans la faiblesse, c'est par cette faiblesse que cette libération est accomplie. Dans ce moment ô combien ténébreux, la lumière a jailli. De ce moment d'angoisse, de pleurs, d'agonie, la joie découle. La joie en Dieu, en Jésus notre Sauveur. Par ce moment où l'animosité humaine, où notre haine profonde à l'égard de Dieu a été dévoilée au grand jour, par ce moment-là, la paix a été fondée, acquise, payée. À la croix, Jésus a payé le prix de notre rébellion. Lui, le juste, a souffert à la place des injustes. Il a subi le juste châtiment de Dieu à l'égard des fautes de son peuple. En lui, par lui, la justice divine a été satisfaite. Sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Au moment de sa mort, le rideau dans le temple s'est arraché, a été arraché en deux. Du haut en bas, la voie vers Dieu a été ouverte parce que la paix permanente a été accomplie. Alors Jésus n'est pas resté mort. Dieu l'a ressuscité. Dieu a proclamé à tous que Jésus est le roi. Il est le roi juste, il est le roi sauveur. Et en lui, si on s'incline devant lui, nous pouvons nous-mêmes goûter à son règne bienfaisant, son règne de liberté. Nous pouvons connaître cette joie de connaître Dieu comme un bon Père céleste. Nous pouvons avoir la joie d'être dans sa présence sans avoir crainte de son jugement, parce que le jugement est tombé sur Jésus à notre place. Un rebelle à l'égard de Dieu pourrait penser que la dernière chose dont il a besoin, c'est le règne de Dieu, d'un Dieu qui est le roi. Mais paradoxalement, c'est vraiment son plus grand besoin. Il a besoin de ce règne, il a besoin de ce roi, il a besoin de son autorité. Et on voit en Jésus que ce règne, ce roi est bon, bienfaisant. Il est vraiment un bon berger qui prend soin de ses brebis. Jésus a commencé son ministère en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et c'est le même message aujourd'hui, c'est le message de Noël. Jésus nous invite à nous incliner devant lui. Lui le roi, nous avons besoin de lui. En lui, devant lui, il y a de la joie, il y a de la paix. Il y a la paix de la réconciliation avec Dieu. Et en lui, il y a aussi la promesse d'une délivrance ultime. Oui, aujourd'hui, même ceux qui s'accrochent à ce roi qui s'incline devant lui expérimentent encore les ténèbres de ce pays de l'ombre de la mort. On expérimente jusqu'à ce que Jésus revient en victoire. Il ne nous a pas encore délivré de manière ultime des maladies, de la présence du péché dans nos cœurs. On est encore faible, on est encore fragile. La dépression, les épreuves, les maladies, l'oppression physique, émotionnelle, en fait, ces choses peuvent faire encore partie de nos vies. Mais nous vivons ces quotidiens parfois difficiles dans la connaissance de notre roi. On peut jubiler dans nos cœurs devant lui, sachant qu'il est devenu notre butin en quelque sorte, il est devenu notre part. Et nous savons qu'en lui, tout a déjà été accompli. La victoire de Madian, la victoire de la croix a déjà été remporté par ce roi. Et là, on a vu que Dieu a eu le dernier mot. Dieu règne par Christ. Et Jésus va revenir. Il va faire toutes choses nouvelles. Et quoi qu'il arrive, en attendant, rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Nous sommes déjà à lui. Il est déjà à nous. J'espère que ce passage de l'Ancien Testament nous prépare pour Noël. Si ce bébé dans la crèche n'est pas encore votre roi, votre Seigneur, si vous ne connaissez pas le Père comme un bon Père céleste en Christ, si en fait vous avez plutôt peur de ce Père. Le cadeau de Noël, c'est le règne de Dieu, c'est ce roi qui vous veut du bien. Et Jésus vous invite à cesser de vivre sans Dieu, à cesser de vivre cette rébellion à l'égard de son règne et à venir devant lui, à mettre par terre, à ses pieds, cette vie sans lui. Il vous invite à vous incliner devant lui, à reconnaître sa royauté. Il est puissant. Son autorité royale divine nous fait trembler, c'est vrai. Mais en lui, grâce à la croix, il y a cette joie, il y a cette paix. En lui, nous voyons tout l'amour de Dieu pour nous, en Jésus, le Fils unique. Ne tardez pas. Adressez-vous simplement à lui dans la prière. Confessez-le comme votre Seigneur, comme votre Roi. Remerciez-le pour la croix, pour son sacrifice à la croix. Remerciez-le pour le pardon. Et si Jésus est déjà votre roi, n'oubliez pas que celui qui t'a sauvé n'est pas juste un simple bébé dans la crèche, mais qu'il est vraiment le maître de l'univers. On va être vraiment émerveillé ce Noël par sa grandeur, par la bonté de son autorité. C'est un roi le plus puissant qui soit, mais qui veut notre bien. C'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous l'a donné pour nous libérer. Il nous libère par ce merveilleux conseiller, par ce Dieu puissant, par ce Père éternel, par ce Prince de paix. On veut le louer ce Noël, on veut avoir une vision grande de qui il est. On veut avoir des cœurs qui remercient le Père, qui soient remplis de joie devant le Père pour cet enfant qui a changé la donne, qui nous a réconciliés avec lui. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons venir devant toi ce matin et reconnaître notre besoin de ton règne, du royaume de Dieu. Ce règne qui nous purifie et qui nous fait du bien. Notre Père, nous voulons te dire pardon pour toutes les fois où on suit notre propre voie. On ne veut pas de ton règne. Nous voulons te dire pardon. Nous voulons venir ce matin devant ton roi, devant Jésus. Nous voulons nous incliner devant lui. Et nous voulons te dire pardon pour notre rébellion. Merci qu'en lui, nous avons la paix. Nous avons cette joie. Nous avons cette victoire qui la tienne. Et bien, nous voulons te remercier du fond de nos cœurs pour Jésus, pour ce roi. Aide-nous à vivre pour lui, à reconnaître sa royauté, sa souveraineté. Aide-nous à vivre devant lui dans la joie, dans l'obéissance joyeuse, sachant que nous avons été pardonnés, qu'en lui nous sommes tes enfants. Aide-nous à vivre ce Noël dans cet esprit-là, dans la joie, dans la reconnaissance. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen.